Excellent réveil. Les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Benjamin Netanyahou a plus de chances que Benny Gantz de former un gouvernement. C'est l'avis du président israélien qui a mandaté le premier ministre après des élections législatives serrées. La tâche s'annonce difficile. Nous irons à Jérusalem.
Les présidents américains et ukrainiens se sont rencontrés en tête à tête hier. Un rendez-vous très attendu après la révélation d'une conversation entre les deux hommes, élément déclencheur de la première étape d'une procédure de destitution.
Des policiers sont appelés à manifester devant le siège de la France Insoumise. Ce matin, le numéro 1 du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, avait qualifié mardi les forces de l'ordre de barbares pendant une manifestation. Des propos qui blessent au sein de la police. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Dans une dizaine de minutes, Margot, le droit à l'oubli, pourquoi se limite-t-il aux frontières de l'Europe? On posera la question à un avocat, Romain Perret.
C'est officiel depuis hier soir. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est chargé par le président Reuven Rivlin de former le prochain gouvernement en Israël. Il aura la lourde tâche de trouver une majorité au Parlement afin de sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il est coincé pour la deuxième fois de l'année. Et alors que les élections législatives de la semaine dernière ne l'ont pas clairement départagé de son rival Benny Gantz. À Jérusalem, le reportage d'Alice Froussard.
À côté du président, ton grave, sourire en coin, Benjamin Netanyahou jubile, celui que l'on surnomme Bibi, s'autoproclame réconciliateur.
Je n'ai pas plus de chances de former un gouvernement, mais mon incapacité est moindre que celle de Benny Gantz. Parce qu'aucun de nous deux ne pourra gouverner, sauf en étant ensemble.
Une main tendue immédiatement rejetée par son adversaire qui refuse de siéger avec un Premier ministre menacé d'inculpation. Le soutien de Benny Gantz sera nécessaire pour obtenir une majorité. Davidi Hermelini croit, il est membre du comité central du Likoud.
Un gouvernement d'union nationale est possible. Gantz doit faire des compromis en reconnaissant que la seule solution, c'est cette alliance.
Les négociations s'annoncent ardues, mais avec cette nomination, il reste le roi Bibi. Jonathan Freeman est politologue de l'Université hébraïque de Jérusalem.
Cela révèle encore une fois la force de Netanyahou, pas en étant le vainqueur clair de ces élections, mais en se plaçant comme le vainqueur de toute la politique israélienne.
Ceux qui rêvaient de la chute de Netanyahou vont donc devoir attendre encore un peu.
Alice Froussard. C'est une blague. Voilà comment Donald Trump résume la procédure de destitution qui le vise. Une enquête sur le président américain est ouverte. Première étape avant l'impeachment. Oui, il reconnaît avoir eu une conversation téléphonique dans laquelle il a demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur le fils de son rival politique, l'ex-vice-président Joe Biden. Mais il assure que cet appel ne contient aucune irrégularité. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, Donald Trump a rencontré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Grégory Phillips.
Volodymyr Zelensky, avant d'être élu à la tête de l'Ukraine au printemps, était comédien et humoriste. Alors c'est par un bon mot qu'il entame son tête-à-tête avec Donald Trump. « C'est mieux de se voir en vrai que d'être au téléphone », dit-il en faisant allusion à leur échange de la fin juillet qui est désormais au cœur de toute cette affaire d'impeachment. Trump rit, mais on voit qu'il est tendu, car trois heures plus tôt, la Maison-Blanche a rendu public le contenu de la conversation de l'été dernier, dans laquelle il demandait à son homologue ukrainien d'enquêter sur le fils de son adversaire politique, Joe Biden. Zelensky est alors contraint d'aborder le sujet. Je suis désolé, mais je ne veux pas être impliqué dans une affaire électorale aux États-Unis. On a eu ce coup de fil qui était très bien, qui était normal. On a parlé de beaucoup de choses, comme vous avez pu le lire. Personne n'a essayé de me pousser à faire quelque chose. En d'autres termes, aucune pression, reprend Donald Trump, qui plus tard s'emporte contre la démocrate Nancy Pelosi qui a déclenché cette opération contre lui. Pour moi, elle n'est plus la speaker de la Chambre, tonne le président américain. Elle a perdu la tête, phagocytée qu'elle est par les gauchistes radicaux.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Les relations ne s'arrangent pas entre le Parlement britannique et le Premier ministre conservateur. Boris Johnson a mis au défi l'opposition de voter une motion de défiance. Il a accusé les parlementaires de retour en session après l'annulation de la suspension du Parlement de saboter les négociations sur le Brexit et a rappelé qu'il souhaitait des élections législatives anticipées. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, le refuse tant que la menace d'un Brexit sans accord avec l'Union européenne n'est pas écarté. La Libye pointe du doigt la France, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Devant l'Assemblée générale de l'ONU hier, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, a dénoncé ce qu'il appelle les ingérences de pays étrangers en Libye. Il reproche aux Émirats arabes unis de relayer les discours du maréchal Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, à la France des missiles trouvés dans une localité libérée par ses troupes et à l'Égypte de lui donner des leçons. Un morceau de glacier du massif du Mont Blanc risque de s'effondrer en Italie. Cet immense bloc est situé dans la vallée du Val Ferré, parallèle à celle de Courmayeur et qui a fondu très vite cet été à cause des fortes chaleurs. La mairie de Courmayeur assure que cette fracture, qui est sans risque pour la population, est liée au réchauffement climatique. Explication de Bruce de Galzin.
250 000 mètres cubes de glace, l'équivalent de 100 piscines olympiques. Si le glacier Plan-Pincieux s'effondre, il inondera une partie du Val Ferré, cette vallée située au pied du Mont Blanc. Sa fonte s'est accélérée cet été, passant de 35 cm par jour à 50, voire 60 cm ces derniers jours. Car ce glacier de basse altitude est directement influencé par la température de l'eau qui coule juste en dessous. Et dès que l'eau est un peu plus chaude, le glacier fond davantage. Stefano Miserocchi, le maire de Courmayeur, la station des Alpes toute proche, fait surveiller le glacier de très près.
Il n'y a pas de modèle prédictif qui pourrait nous dire exactement quand et comment il s'effondrera. En entier, en morceaux, ce glacier n'avait jamais eu ce type de problème avant. Il n'était donc photographié qu'une fois par jour. Mais désormais, les guides des Alpes font des relevés toute la journée. La nuit, ils ne peuvent pas le faire et donc nous fermons la route.
C'est la route d'accès au Val Ferré qui est fermée toute la nuit. Des chalets ont été évacués. Mais le maire de Courmayeur, comme l'association Montagna Sicura, ne se montre pas alarmiste. La zone est certes touristique, mais très peu habitée. Alarmistes, en revanche, ils le sont sur les dangers du réchauffement climatique. On en a la preuve sous nos yeux, disent-ils.
Bruce de Galzin.
Vous écoutez France Culture, il est 7h07. La notion du secret peut-elle se concevoir de différentes façons, Margot Delpierre? Ce n'est pas un sujet de philo au bac, mais la question débattue hier au procès de Jean-Jacques Urvoas.
L'ex-garde des Sceaux de François Hollande est jugé toute la semaine pour violation du secret professionnel. Il est accusé d'avoir transmis au député Les Républicains Thierry Soler des éléments de l'enquête qui le visait pour fraude fiscale et trafic d'influence. Hier, la Cour a entendu trois anciens membres de son cabinet au discours contradictoire, Anne Fauquemberg.
Pour Éric Ruel, l'ancien directeur adjoint du ministre, qui a joué le rôle de courroie de transmission de la fiche d'action publique étiquetée Solaire, aucune ambiguïté. Les remontées d'informations des parquets sont confidentielles. Nous n'avons jamais abordé en tant que tel la question du secret. C'était pour moi une évidence que le garde des Sceaux était tenu au secret. Puis un peu plus tard, il poursuit « Je regrette qu'il y ait eu ce malentendu ». L'ex-conseiller politique Florian Vadillo, lui, ne voit pas le problème. Il a même gardé certaines fiches d'action publique pour ses archives personnelles. Vous n'avez pas celle de Thierry Soler, ironise un député. J'ai fait une recherche avec l'option CTRL-F dans ma boîte Outlook, mais je n'en ai trouvé trace. Puis c'est au tour de Thomas Andrieux de s'exprimer, un ex-directeur de cabinet hésitant et qui revient même sur ses déclarations. Il reconnaît que le droit pénal est d'interprétation stricte, mais parfois l'intérêt général et les circonstances politiques peuvent amener à prendre des décisions en responsabilité, déclare-t-il. Quant à cette fameuse note blanche sur la notion de secret révélé avant-hier par l'ancien directeur des affaires criminelles et des grâces, la structure qui rédige les fiches d'action publique, note qui aurait été remise à Jean-Jacques Urvoas en février 2016, eh bien elle a été remise à la cour hier matin. Les trois témoins disent découvrir son existence. Une note qui, selon la cour, concerne la remontée d'informations des parquets généraux, mais la défense insiste à plusieurs reprises. Un paragraphe notifie qu'il n'existe aucun texte ni circulaire qui encadre l'usage par le garde des Sceaux de ces éléments ainsi transmis.
Et le député des Hauts-de-Seine, Thierry Soler, sera entendu ce matin par la Cour de justice de la République. Nous y reviendrons en direct dans le journal de midi et demi sur France Culture. Christophe Castaner a demandé hier à Jean-Luc Mélenchon de présenter ses excuses. Le chef de file de la France Insoumise a qualifié les forces de l'ordre de barbares. C'était mardi, pendant la manifestation parisienne contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon a rétorqué au ministre de l'Intérieur que ce n'était pas à lui de s'excuser, estimant que la démission de Castaner serait plus utile. Au-delà des petites phrases, cette affaire révèle un profond malaise au sein de la police française, Stéphane Robert.
Tout est parti des paroles de Jean-Luc Mélenchon prononcées à l'adresse de plusieurs manifestants mardi devant des caméras.
C'est des barbares, soyez prudents, hein, parce qu'ils s'arrêtent plus maintenant. Hein.
Les policiers qualifiés de barbares ont très vite fait part de leur exaspération par la voix du délégué général du syndicat Alliance, Frédéric Lagache, qui a demandé au ministre de l'Intérieur de porter plainte et a lancé un appel à manifester ce matin devant les locaux de la France Insoumise.
Il faut que tout ça s'arrête, ces provocations, ces insultes et ces intimidations.
Pour le professeur de criminologie Alain Bauer, cette situation, outre la frustration politique d'un Mélenchon qui joue la victimisation, témoigne d'un profond malaise au sein de la police française.
La confrontation très longue, l'épuisement physique de 45 samedi de manifestations de gilets jaunes, plus une situation de mise en cause, parfois justifiée, parfois moins, sur l'utilisation d'équipements donnés à des policiers qui n'étaient pas particulièrement formés à ça et qui ont provoqué beaucoup de dégâts, ont amené une situation de mise en doute et de mise en cause. Vous rajoutez le reste, y compris la crise d'identité qui peut exister à l'intérieur de la police nationale, et vous avez un état de fébrilité, de sensibilité, d'énervement, d'agacement, qui est relativement important.
Un agacement et un malaise que mettent en avant toutes les organisations syndicales de la police. Elles appellent à manifester mercredi de la semaine prochaine à travers une marche dite de la colère pour dénoncer les agressions dont sont victimes les policiers ainsi qu'une hausse du nombre de suicides depuis le début de l'année.
500 Français attendent l'arrivée d'Emmanuel Macron à Rodez ce soir dans l'Aveyron. De retour de l'ONU à New York, le président de la République participe à une réunion publique, coup d'envoi de la concertation citoyenne sur les retraites. Le chef de l'État devrait aussi être accueilli par un rassemblement d'opposants à l'appel, entre autres, de la CGT, de la France Insoumise et de l'Union des Gilets jaunes. Un site classé Seveso a pris feu cette nuit à Rouen. L'incendie s'est déclaré à l'usine Lubrizol qui fabrique des additifs pour lubrifiant. Des habitants ont été réveillés par le bruit des explosions. Il n'y a pas de victimes, assure la direction. Le temps aujourd'hui ne nous changera pas beaucoup d'hier. Toujours des nuages et de la pluie sur une grande partie de la France. En revanche, Météo France annonce une accalmie dans le sud. Les températures cet après-midi, 18 à Brest et Lille, 21 degrés à Paris et 25 à Lyon-Guillaume.
Merci Margot Delpierre, 7h12.